Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié par la manufacture de livres dans une édition mise à jour parue en 2024. Les tueurs fous du Brabant, le Cold Case aux 28 victimes, est un ouvrage d'enquête consacré à l'une des affaires criminelles les plus graves et les plus durables de l'histoire, judiciaire belge. Patricia Finet, fille de Léon Finet, tuée lors de l'une des attaques de 1985, le cosigne avec le criminologue Michel Lurquin, qui suit ce dossier depuis ses origines. Le livre revient sur la série de hold-up, cambriolages et attaques armées commis entre 1982 et 1985 en Belgique, ainsi que dans le nord de la France. 28 personnes y ont été tuées par des auteurs qui n'ont jamais été formellement identifiés. L'ambition n'est pas d'annoncer une résolution qui n'existe pas, mais de présenter les faits connus, les pistes envisagées et les failles d'une enquête devenue emblématique. L'ouvrage place aussi les victimes et leurs proches au centre d'un dossier trop souvent réduit à ces hypothèses spectaculaires. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une chronologie criminelle où la violence excède la logique du butin. Le premier apport du livre consiste à replacer les tueries du Brabant dans leur réalité matérielle. Il ne s'agit pas d'un crime unique, mais d'une succession d'attaques commises entre 1982 et 1985. Les cibles comprennent notamment des commerces, des cambriolages et des hold-up, avec des faits concentrés en Belgique, mais aussi une extension vers le nord de la France. Cette mise en série est essentielle, car elle évite de lire chaque attaque comme un épisode isolé. Elle fait apparaître une continuité de méthodes violentes et un contraste majeur entre la brutalité exercée et des gains financiers souvent considérés comme limités au regard du risque pris et du nombre de victimes. C'est ce décalage qui nourrit durablement l'énigme. Dans une lecture criminologique ordinaire, le braquage vise d'abord l'appropriation d'un butin. Ici, l'intensité meurtrière des attaques rend insuffisante une explication strictement financière. Le livre ne prétend pas transformer cette anomalie en preuve d'un scénario déterminé. Il montre plutôt pourquoi elle a conduit à multiplier les interrogations sur les mobiles, l'organisation du groupe et le choix de certaines cibles. Cette prudence contre l'absence de réponse définitive ne permet pas de convertir les intuitions en certitude, en reconstituant le cadre général des faits. L'enquête offre au lecteur les éléments nécessaires pour comprendre la singularité historique du dossier sans confondre, faits établis, indices et interprétations. Deuxièmement, un cold case façonné par l'absence persistante d'auteurs identifiés, l'expression cold case prend dans cet ouvrage un sens particulièrement concret. Malgré des décennies d'investigation, de nombreuses pistes, des moyens humains et financiers mobilisés et une récompense annoncée pour toute information conduisant à l'identification des responsables, les auteurs des 28 homicides ne sont pas identifiés de manière judiciaire. Cette donnée structure tout le livre, il ne peut proposer ni coupable établi, ni procès, ni clôture morale comparable à celle d'une affaire résolue. Les auteurs examinent ainsi une difficulté propre aux enquêtes anciennes, plus le temps passe, plus les sources humaines, matérielles et mémorielles, deviennent fragiles. Les témoignages peuvent être incomplets ou contradictoires, les hypothèses se superposent. Les erreurs ou les impasses initiales prennent davantage de poids lorsque la résolution tarde. Un dossier aussi médiatisé produit en outre son propre bruit-rumeur, récits concurrents et fausses pistes risquent de masquer les éléments réellement vérifiables. Le livre se distingue donc moins par la promesse d'une révélation que par un travail de clarification entre ce qui est documenté, ce qui a été envisagé et ce qui demeure inconnu. Pour le lecteur, cette démarche rappelle qu'un mystère judiciaire n'est pas automatiquement une énigme à solution cachée. Il peut aussi être le résultat durable de preuves insuffisantes, d'informations dispersées et d'occasions perdues. L'incertitude n'est pas un défaut narratif du livre, elle est le sujet même de l'enquête. Troisièmement, les hypothèses sur les mobiles, les examiner sans les ériger en verdict. Les tueries du Brabant ont suscité un nombre considérable de théories, en partie parce que le niveau de violence paraît difficile à concilier avec la seule recherche de profit. Le livre aborde cet espace d'hypothèses, mais sa valeur tient précisément à la nécessité de ne pas les traiter comme des conclusions. Les questions portent sur les motivations possibles des agresseurs, sur le degré d'organisation du groupe et sur le sens que pouvaient avoir les attaques répétées. Elles sont inévitables dans un dossier sans auteur identifié. Elles ne remplacent toutefois pas les preuves. Cette distinction est importante dans le domaine du true crime. Une affaire non résolue attire naturellement les explications globales, parce qu'elle donne une cohérence à des faits traumatisants et apparemment absurdes. Or, une hypothèse peut sembler compatible avec certains éléments sans être suffisamment étayée pour être retenue. Le livre invite ainsi à regarder les pistes comme des instruments d'enquête, elles orientent les recherches, permettent de comparer les faits et révèlent parfois les zones d'ombre. Mais elles doivent pouvoir être contestées. Le cas de Léon Finet illustre la sensibilité de cet exercice. Sa qualité d'homme politique et de banquier a alimenté des interrogations sur l'éventualité de victimes spécifiquement visées. Patricia Finet expose sa proximité avec le drame sans en faire une preuve d'une théorie particulière. Cette retenue préserve une exigence centrale, reconnaître la légitimité des questions tout en refusant de faire de la douleur des familles le support d'affirmations invérifiables. Quatrièmement, la parole d'une proche de victime face aux limites institutionnelles de l'enquête. La participation de Patricia Finet donne au livre une dimension que ne possède pas une synthèse criminologique classique. Son père, Léon Finet, a été abattu le 27 septembre 1985 lors de l'attaque du Deleuze d'Overiz. Elle écrit donc non seulement comme personne informée du dossier, mais comme partie civile engagée depuis longtemps dans la recherche de la vérité. Cette position ne transforme pas l'ouvrage en témoignage intime au sens strict, elle modifie plutôt le point de vue à partir duquel l'affaire est examinée. Les 28 morts ne sont pas une donnée statistique ou une étape de chronologie, ils désignent des vies interrompues et des proches confrontés à une absence de réponse durable. Cette perspective aide à comprendre les conséquences d'un échec judiciaire, lorsqu'aucun auteur n'est identifié. Les familles ne sont pas seulement privées d'une condamnation, elles restent exposées aux récits concurrents, aux réouvertures de pistes et à la difficulté de savoir pourquoi le crime a été commis. La recherche de vérité devient une activité de longue durée, parfois menée en parallèle des institutions. Le travail de Patricia Finet, notamment son investissement personnel dans le dossier, témoigne de cette persistance. Le livre met ainsi en tension deux exigences. Il faut préserver la rigueur factuelle, qui interdit de conclure sans preuve. Il faut aussi reconnaître que l'incertitude judiciaire a un coût humain. Cette articulation entre documentation et mémoire des victimes constitue l'un de ses traits les plus distinctifs. En dernier lieu, un dossier révélateur des défis de la justice belge et de la mémoire collective au-delà de la recherche des auteurs. L'ouvrage interroge la manière dont une affaire criminelle irrésolue s'inscrit dans la mémoire d'un pays. Les tueries du Brabant ont marqué la Belgique par leur violence, par le caractère apparemment indiscriminé de plusieurs attaques et par l'incapacité persistante de la justice à établir une vérité complète. Elles sont devenues une référence collective, mais cette notoriété comporte un risque : le dossier peut être absorbé par le mythe, les récits sensationnels ou les explications simplificatrices. Le livre oppose à cette dérive une démarche de remise en contexte. Il rappelle que l'ampleur d'une affaire ne se mesure pas seulement à son mystère, elle se mesure aussi à la qualité de la réponse apportée aux victimes, à la conservation des éléments, à la coordination des investigations et à la capacité des institutions à expliquer leurs limites. Le temps écoulé ne rend pas ces questions secondaires, il les rend plus aiguës, car il réduit progressivement les possibilités d'élucidation. Cette dimension institutionnelle ne revient pas à attribuer automatiquement une intention ou une responsabilité unique à l'ensemble de l'appareil judiciaire. Elle invite à analyser les conséquences des dysfonctionnements, des retards et des impasses dans une enquête complexe. Pour le lecteur, le dossier devient ainsi un cas d'étude sur les conditions nécessaires à une justice crédible méthode, transparence, continuité du travail d'enquête et considération réelle pour les personnes touchées. C'est aussi une réflexion sur ce qu'une société fait des crimes qu'elle ne parvient pas à résoudre. En conclusion, les tueurs fous du Brabant, le Cold Case aux 28 victimes, s'adressent d'abord aux lecteurs de True Crime qui cherchent davantage qu'un récit de faits divers spectaculaires. Il conviendra aussi aux personnes intéressées par l'histoire judiciaire belge, la criminologie, les enquêtes non résolues et la place des victimes dans les procédures de longue durée. Son intérêt pratique et intellectuel est de fournir un cadre de lecture prudent. Pour une affaire encombrée de rumeurs, il aide à distinguer la gravité des faits établis, les questions légitimes posées par les enquêteurs et les hypothèses qui demeurent sans démonstration décisive. Le livre se démarque des ouvrages criminels centrés sur l'identification d'un coupable ou sur la dramatisation d'une piste. Il ne force pas une solution afin de satisfaire les attentes narratives du genre. Sa force réside au contraire dans l'acceptation méthodique de ce qui reste inconnu, sans banaliser pour autant l'échec de l'enquête. La double légitimité de ses auteurs renforce cette approche. Michel Lurquin apporte l'expérience d'un criminologue qui suit le dossier depuis l'origine. Tandis que Patricia Finet rappelle, par son lien direct avec l'une des victimes, que l'affaire ne peut être séparée de ses conséquences humaines. Cette combinaison d'enquête documentaire, de vigilance face aux fausses certitudes et d'attention aux familles donne au volume une place particulière. Il ne clôt pas le mystère des tueries du Brabant. Il permet de mieux comprendre pourquoi ce mystère persiste et pourquoi son absence de résolution demeure une question de justice publique. Si vous souhaitez soutenir Patricia Finet, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.